Et on revient ce soir sur ce qui s'est passé à Clamart dans les Hauts-de-Seine et qui pose plusieurs questions. Un conducteur de 34 ans a perdu la vie cette nuit dans une collision mortelle avec une voiture conduite par un adolescent de 14 ans. Cet adolescent aurait volé une voiture, refusé de se soumettre aux injonctions de la police. Il a pris la fuite et donc a causé la mort de cet homme de 34 ans. Pour en parler, Dylan Slama, avocat pénaliste. Bonsoir à vous, Dylan Slama, et Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Que s'est-il passé, Guillaume, précisément donc. Ça s'est passé entre Palaiseau et Clamart,
d'ailleurs. Oui, c'est ça. La police repère un véhicule qu'elle pense voler. D'ailleurs, il s'avéra, selon les informations, qu'il s'agit bien d'un véhicule volé. Au volant de ce véhicule, un jeune homme de 14 ans qui refuse d'obtempérer, part à grande vitesse, emprunte une route à contresens, percute un autre véhicule dont le conducteur est hélas décédé. Et quand on regarde les antécédents judiciaires de ce jeune de 14 ans...
Un lourd passé judiciaire à 14 ans déjà.
Lourd, en tout cas, il y a déjà une première condamnation hein, pour des faits de vol avec violence. Et puis, il y a aussi des faits de violation de domicile qui lui sont reprochés. Bon, ça fait déjà deux faits assez graves, du reste, à 14 ans. Et donc là, cette conduite, de toute évidence sans permis, à 14 ans, on n'a pas le permis, dangereuse.
D'une voiture volée.
Et qui occasionne la mort d'un autre automobiliste. D'ailleurs, ce jeune homme de 14 ans est placé en garde à vue du chef d'homicide involontaire aggravé. Donc, évidemment, ça ne manque pas de soulever un ensemble de questions sur sa prise en charge judiciaire et sur son extrême jeunesse au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Alors justement, Dylan Slama, que risque-t-il ? Il n'a que 14 ans. Est-ce qu'à 14 ans, on peut être puni par la loi?
Bien sûr, on peut être puni. Il risque dans un premier temps éventuellement une mise en examen avec de la détention provisoire qui est possible même très jeune. En fait, il risque, j'ai presque envie de dire, comme un adulte. La seule chose, c'est que parfois il y a des aménagements sur la durée de la détention provisoire en attendant le procès qui est censé être plus courte et qu'il y a un phénomène dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, l'excuse de minorité qui en général est admise pour les mineurs. Là, 14 ans, il est très mineur, j'ai envie de dire. Il n'est pas proche de la majorité.
Rappelez-nous l'excuse de minorité. On rabaisse la peine.
L'excuse de minorité, ça fait qu'effectivement, la peine doit être divisée par deux. En tout cas, la peine encourue. Donc, encore une fois, c'est un principe. Il peut y être fait exception et on peut revenir sur cette excuse de minorité. Il est exceptionnel qu'on y revienne. Et par ailleurs, même si on y revient, c'est dans des cas où l'individu, le mineur, a peut-être 17 ans, 17 ans et demi, se comporte comme un majeur. Là, 14 ans, il y a peu de chance. Mais je rappelle quand même que lorsque la peine possible est déjà très élevée, je ne sais pas si la peine encourue est de 30 ans, par exemple, la moitié, ça fait déjà 15 ans. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on peut quand même monter très très haut, même avec l'excuse de minorité qui est retenue.
Et donc, à 14 ans, même avec cette excuse de minorité, il peut potentiellement faire de la prison ferme.
Il peut faire de la prison ferme, mais il peut faire effectivement beaucoup de prison ferme. Il peut faire, encore une fois, j'ai dit, si la peine encourue est de 30 ans, par exemple, divisé par 2, on en est encore à 15 ans. Donc la prison ferme peut être extrêmement importante. Voilà, il ne faut pas croire que parce que l'on est mineur, il y a une espèce d'impunité et que finalement, on ne risque pas la prison, etc. Alors bien sûr, sera apprécié les fait, sa part de responsabilité, est-ce qu'elle est entière? Là-dessus, ce sera au magistrat, bien sûr, de décider. Je peux pas, moi, là, bien sûr, me prononcer sur ce qu'il risque très précisément. Mais sur le principe, oui, on peut tout à fait être mineur, aller en prison et être condamné.
Que faire face à ces profils-là? Franchement, c'est un gamin de 14 ans qui a déjà été...
Pas tant gamin que ça.
Il a 14 ans.
Oui, il a quand même des réflexes et des attitudes de quelqu'un d'un peu plus mature que 14 ans. Heureusement que c'est une exception. Parce que si on estime qu'aujourd'hui, à 14 ans, on peut prendre une voiture volée ou pas volée, conduire à contresens, comme si on avait 18, 19 ou 20 ans, ça va poser un problème à la société.
Même à 18, 19 ou 20 ans, on voilà, prend pas une voiture volée à contresens.
Enfin, okay, là, mais donc à 14 ans, il a plutôt le comportement de quelqu'un de 18 que de quelqu'un de 7, que quelqu'un
de 12.
Oui,
il a un comportement délictueux, quoi qu'il arrive.
Après, j'ai pas connu, moi, dans ma jeunesse, des enfants de 14 ans qui volaient des voitures et qui tuaient des gens.
Je pense que c'était pas mieux avant.
Je parle pas d'avant ou d'après. Je n'ai pas connu, moi, dans
mais
les années
70. Mais vous ne pouvez pas
70.
Tout connaître, certainement.
Non, mais il y a quand même des coupures de presse. Voyons, on peut consulter les archives de la presse.
Mais l'ignorance de ce qui se passait avant n'est pas un argument.
Oui, d'accord, mais on n'a pas de gens de 14 ans qui volaient des voitures et qui tuaient.
Bon, mais donc qu'est-ce qu'on fait face à ces profils-là, Guillaume Fard?
D'abord, sur l'excuse de minorité et du fait qu'il ait moins de 16 ans, bon, il faut peut-être interroger la philosophie de cette excuse. Pourquoi est-ce que cela existe? Parce qu'on considère que quand vous avez 14 ans, votre trajectoire peut être amendée. vous avez, par rapport à une espérance de vie qui en France doit être de 85 ans pour les hommes, vous avez consommé qu'une toute petite partie de votre existence et que donc vous pouvez changer, vous pouvez être transformé. Et donc c'est la raison pour laquelle, et il n'y a aucun angélisme à le dire, ce qu'on vise c'est le progrès social et humain, et donc on considère que vous pouvez progresser sur le plan humain. Et que si vous avez suivi une mauvaise trajectoire à 14 ans, le rôle de la société dans un État démocratique et républicain, c'est d'essayer de vous remettre sur le bon chemin. Et c'est pour ça que la prison, philosophiquement, pour les mineurs, notamment les mineurs de moins de 16 ans,
pose problème.
C'est surtout l'exception. On considère que ça doit être le dernier recours et que ça n'est pas à la justice de corriger nécessairement, a fortiori en arrivant en bout de chaîne, toute une série de tares. Est-ce qu'on s'est intéressé au profil de ce jeune homme ? Qu'est-ce qu'on sait de sa structure familiale, parentale, de sa vie, de ses fragilités ?
Visiblement, il serait élevé par sa mère, principalement, issu d'un couple divorcé.
Oui, après, voilà. Tous les enfants de couples divorcés ne se retrouvent pas volant d'une voiture de 14 ans. Mais pour autant, ça n'est pas à la justice de toujours tout corriger, de toujours tout réparer, quand on considère que c'est une chaîne et que la justice arrive au bout de la chaîne. Et donc, cette excuse de minorité, elle a une histoire et elle a une explication sociologique. Et comme le disait Maître Slama, ça ne veut pas dire qu'on passe l'éponge sur quoi que ce soit.
Je vous vois soupirer, Arnaud.
Non, mais on parle de ne pas parler d'angélisme. Enfin, on est en train d'expliquer peut-être que la vie de ce jeune homme est compliquée, etc. Quelle est la vie de la famille de la victime ?
Pour Marvin, c'est fini.
Il avait quoi ? Des parents ? Ça va ? Comment ça se passait ? Ils étaient divorcés ou pas ? Il a des enfants, des nieux, des neveux, des nièces. Qu'est-ce qu'on s'y intéresse ? Parce que c'est bien de parler de la souffrance de ce jeune homme qui se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Mais la situation de la famille de la victime ? Il n'y en a pas qu'une des victimes tous les ans. La justice a un rôle à jouer parce qu'il faut éviter que ça se reproduise. Je suis désolé, mais il y a une charge d'exemplarité quand même.
Oui, mais Arnaud Stéphane, c'est bien exactement ce que vient de dire Guillaume Fard. Dans quelle mesure il y aura une forme d'exemplarité dans la peine qui sera prononcée et il y aura sensiblement une peine. Enfin, c'est ce que j'entends, même si je suis pas juriste ici autour de cette table. Dans quelle mesure vous partez du principe qu'en fait tout est condamnable et qu'il n'y a rien à tirer de ce gamin de 14 ans et qu'il ne pourra jamais être réinséré, quand bien même.
J'ai pas dit ça.
Non, mais voilà. Donc c'est, là, c'est parce évidemment que la famille de la personne qui est décédée, c'est absolument abominable.
Ils vont se réinsérer comment ?
C'est une question aussi, en fait, de société. Voilà, comment on fait pour faire en sorte que ce gamin soit à terme réinsérable, même si là, on parle de, voilà, je sais pas, 15 ans, 20 ans, 30 ans. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, notre contrat social, en fait, est aussi basé là-dessus. Est-ce qu'il faut l'annihiler en considérant qu'il n'y a rien à faire, qu'on ne prend pas en compte, en fait, un contexte ? On sait depuis maintenant plusieurs années, et notamment depuis les Gilets jaunes, les femmes seules, les familles monoparentales sont une question sociale. Certaines se sont constituées aujourd'hui, en fait, en collectif, demandent à être accompagnées. De surcroît, quand elles sont face à des difficultés qui sont parfois considérables, quand elles ont face à eux des gamins de 14, 15 ans, qu'elles ont du mal à gérer. On le sait, regardez autour de vous, certaines demandes de l'aide ne l'obtiennent pas parce que les moyens aujourd'hui de l'État ne suivent pas quand il s'agit de mesures pédagogiques d'accompagnement, elles ne les ont pas.
D'accord.
Donc même si vous êtes condamné, quand vous avez des gamins condamnés, on peut attendre parfois 6 mois.
La solution se situe par rapport à l'éducation aux parents.
Bien sûr, il faut le prendre avant. Il faut éviter que ces gamins se retrouvent à voler une bagnole et à tuer quelqu'un. Ouais. Avant, il y a quoi ? Il y a toutes les actions sociales qui peuvent être menées, parce qu'en effet, il y a toute une série d'explications, qui ne sont pas des excuses, mais qui sont des explications. Mais il y a aussi quelque chose de défaillant. Normalement, il devrait y avoir, chez les jeunes, la peur du gendarme, la peur de la justice, la peur de la prison. Je veux pas être délinquant parce que j'ai pas envie d'aller en prison. Mais quand ce gamin est regarde la télévision, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Mohamed Amra, qui avait quoi ? 8-9 portables en prison ? Qui se faisait livrer la nourriture qu'il voulait en prison ? Qui recevait qui il voulait au parloir pour faire ce qu'il voulait ? Comment voulez-vous que ça lui fasse peur ? Comment voulez-vous qu'il se dise, s'il est pris en charge par des délinquants qui lui montent la tête, qu'il se dise, oulala, non, je vais pas y aller parce que j'ai pas envie d'aller en prison. Là aussi, la fonction dissuasive de la répression, la prison, c'est pas que la répression, c'est la réinsertion, mais c'est aussi la répression qui doit être dissuasive. Oui. Vous ne voulez pas y aller, regardez comme c'est terrible, tenez-vous tranquille. Ça ne marche plus.
Oui, enfin, pardon, mais la prison, ça n'est pas le Club Med, quoi qu'en disent certains.
Non, mais enfin, on a eu un exemple un peu étrange. Mais
alors, moi, je vais vous prendre un contre-exemple. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui est originaire de Dordogne, qui a commis plusieurs délits routiers parce qu'il a conduit sans permis, il a conduit sous l'empire de l'alcool. Et au bout d'un moment, un magistrat décide de l'enfermer. en disant, écoutez, monsieur, ça suffit, vous conduisez tout le temps sans permis, vous êtes tout le temps ivre au volant, je vous enferme. Bien cet homme, qui s'est retrouvé en maison d'arrêt, puisque c'est là où on juge, on enferme les personnes qui sont condamnées pour des courtes peines, dans une prison surpeuplée, a été violé par son co-détenu qui l'a sodomisé avec le balai pour brosser les toilettes. Et cet homme, aujourd'hui, il est mutilé. Voilà. Alors, ça, c'est effroyable. C'est absolument effroyable, cette affaire que je vous raconte. Mais on ne peut pas dire que la prison aujourd'hui, dans ses conditions de détention, offre toujours des conditions très favorables aux détenus. Ça n'est pas vrai. Et donc, à un exemple, je peux donner autant de contre-exemples que vous voulez, parce que les conditions de détention peuvent être, dans certains cas, absolument effroyables.
Merci beaucoup. Merci Dylan Slama, merci Guillaume Farr, merci à tous les deux.